Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le 7e épisode de The Automotive Vision Podcast. Donc, je suis actuellement en compagnie de Julien Renard. Bonjour Julien, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
Salut Hugo.
Écoute, tout simplement, je voudrais commencer ce podcast par une petite présentation de toi-même, si tu peux te présenter rapidement et parler du coup aussi de ton parcours scolaire par la même occasion.
Ouais, ça marche. Moi, j'ai fondé donc l'entreprise Mindset. Chez Mindset, donc on fait des solutions de visualisation de véhicules interactifs depuis Internet. Avant de créer cette boîte-là, j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans le monde de l'automobile en tant que responsable marketing digital et en tant que chargé de, en tant que, j'ai fait, pour être honnête avec toi même d'ailleurs, j'ai fait un peu tous les postes.
D'accord.
C'est-à-dire que si vraiment on fait de A à Z, j'ai fait au départ traffic manager, après web marketer, ensuite responsable d'un pôle marketing et ensuite responsable du pôle innovation, de pôle innovation dans des boîtes de marketing digital.
D'accord.
Donc en fait, parti de tout en bas jusqu'à des échelons un petit peu plus haut. Et tout ça, effectivement, centré dans le monde de l'automobile puisque les entreprises dans lesquelles j'ai évolué étaient spécialisées justement dans le monde de l'automobile.
D'accord.
Concernant le parcours scolaire, écoute, pareil, je vais te donner la totale, mais il n'y a pas non plus 15
000. Vas-y, pas de souci.
J'ai fait du coup un bac S, après j'ai fait un IUT qui a depuis changé le nom. Le nouveau nom de cet IUT s'appelle Métier du Multimédia et de l'Internet.
D'accord.
Après j'ai fait une licence et un master information et communication, mais l'idée là-dedans, c'était d'acquérir des compétences, que ce soit dans le domaine de la communication pour la communication digitale, donc réseaux sociaux, web marketing, SIA, etc. Et également le côté développement, gestion de projet et développement d'applications et ou de sites internet, ce qui me sert aujourd'hui puisque on est clairement là-dedans. On développe des solutions digitales, donc il y a tout cet environnement-là, effectivement, spécialisé pour l'automobile.
D'accord, ok. Moi, du coup, j'ai une petite question parce que du coup, tu t'es spécialisé vraiment dans l'automobile, mais de base, tu viens vraiment du digital marketing, l'aspect un petit peu high-tech. Comment ça s'est fait, en fait, cette transition?
Eh bien, écoute, la transition, elle est passée vraiment, elle est passée de travailler avec des gens comme Microsoft, Samsung, etc., à l'automobile. Je dirais qu'il y a une chose qui a fait cette transition pour moi, par exemple, c'est qu'on a aujourd'hui dans le monde de l'automobile la partie software, ce avec quoi tu interagis, qui prend de plus en plus de place.
Bien sûr.
Que ce soit chez n'importe quel constructeur d'ailleurs, hein, tu as maintenant toujours un écran tactile avec de plus en plus de fonctionnalités dans cet écran tactile. Pour moi, c'est ce qui fait un peu passerelle entre les deux mondes que j'ai côtoyés, mais après surtout. Le point clé, c'est que faut aimer la bagnole, quoi.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu ton parcours, du coup, plutôt professionnel? Donc, dans quelles entreprises tu as travaillé? Comment tu as réussi à intégrer ce monde de l'automobile? Et vraiment ton parcours pro.
Alors, écoute, parcours pro, au départ, quand j'ai commencé, c'était en tant que designer et community manager.
D'accord.
Dans des agences de marketing. Donc là, on n'était pas vraiment spécialisé dans le monde de l'automobile, c'était du généraliste, mais il fallait commencer par quelque chose. Et puis en plus, moi, j'adorais ça.
Bien sûr.
Le côté touche à tout, ça c'est important. Je pense que la curiosité, en fait, c'est important. Mm. De là, je suis resté longtemps dans cette boîte. J'ai fait 7 ans dans cette entreprise. Après, je suis allé dans une plus grosse entreprise qui employait environ 50 personnes.
D'accord.
Là, du coup, c'était vraiment sur le côté traffic manager, donc gestion de campagne publicitaire, toujours multi-secteur. Là, j'ai fait 3 ans dans cette 3 ans dans cette boîte, et c'est là où effectivement, ben, tu passes de traffic manager qui est l'échelon que je dirais le plus bas au marketeur, etc. Où tu montes après en échelon.
Bien sûr.
T'as des mots ou des titres de poste qui sont assez connus, de chargé de compte par exemple, si certains de tes auditeurs connaissent.
Bien sûr.
Après, tu continues là-dedans. Du coup, bah, après, ça reste à la fois aussi des choix de vie, hein, et des choix de carrière. Donc, ta vie peut véritablement influencer ta carrière.
Bien
C'est pas
sûr.
tout le temps, c'est pas tout le temps comme ça, d'ailleurs. Moi, dans mon cas, du coup, après, je suis parti encore dans une autre entreprise pour faire du généraliste et ensuite, et fin, je suis arrivé dans la dernière entreprise en tant que salarié. Là, c'était effectivement spécialisé dans le monde de l'automobile. Donc, bah là, du coup, en termes de clients, on avait toute typologie de clientèle, que ce soit du constructeur ou du concessionnaire, ou du groupe, bien sûr, hein. Il y avait un petit peu de toute typologie de clientèle. Et là, bah, c'est pareil, et c'est encore une fois la capacité que tu peux avoir à faire plus que les autres, parce qu'il ne faut pas oublier que si tu te contentes de faire le minimum, tu auras aussi en retour que le
Le
minimum.
minimum, bien sûr.
C'est aussi une histoire de rencontre. Donc, j'ai bossé ben, plus de 7 ans dans cette entreprise. Et à la fin, ben, je l'ai du coup quitté cette entreprise. Et une fois que j'ai eu quitté cette entreprise, ben, j'ai créé la mienne parce
D'accord.
que ben, je considérais que j'avais beaucoup d'expérience, que j'avais développé beaucoup de réseaux aussi. Et cet ensemble de choses m'ont permis du coup de créer Mindset. Et en plus, du coup, quand j'ai créé Mindset, moi j'avais une lubie un peu en tête, c'est de changer la façon dont on voit un véhicule d'occasion en ligne. Parce que pour prendre un exemple tout bête, mais aujourd'hui, quand tu es sur un site de véhicules d'occasion, peu
Bien sûr.
importe la marque et la gamme de véhicules d'ailleurs, hein, tu peux avoir. C'est le même problème chez Ferrari que chez Renault pour faire le grand écart. Tu consultes, quoi qu'il arrive, des photos
Bien sûr.
pour voir la voiture. Dans le meilleur des cas, tu as des solutions qui te permettent de faire du 360 degrés, c'est-à-dire tu tournes autour de la voiture, mais ce n'est ni plus ni moins qu'un enchaînement de photos. C'est pas, tu vois pas vraiment le véhicule de façon 100% interactive. Et en fait, c'est à ça qu'on voulait s'attaquer, c'était faire voir vraiment le véhicule sans que tu aies besoin de te déplacer de la maison, ou bien que si tu te déplaces en concession, que tu aies la possibilité de dire oui, ben effectivement, c'est exactement ce que j'ai vu sur mon ordinateur. Monsieur le vendeur, s'il vous plaît, c'est où qu'on paye? Où est-ce qu'on donne le chèque?
Non, ça. Ok. Ouais, donc c'est une belle promesse quand même, je trouve.
Oui, alors c'est
C'est
vraiment pas mal.
sûr. C'est sûr. Et j'imagine que c'est aussi une façon de mêler passion et business, entre guillemets.
Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux vraiment, le point aujourd'hui qui m'anime, c'est que oui, il y a de la passion. Ben oui, on s'éclate aussi dans le business parce que ce qu'on fait, on voit que les gens qui sont en face de nous, donc que ce soit client, investisseur, peu importe, il n'y a pas besoin de faire 15 phrases pour expliquer.
Bien sûr.
Les clients se l'approprient tout de suite et comprennent ce qu'on fait. Quand ils voient le résultat, ils sont encore plus conquis. Ça aussi, c'est le côté important quand même. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une vision. Il faut avoir une
Bien sûr.
vision de ce que tu as envie de ce que tu as envie de faire. Et je pense que dans la vie, il n'y a rien de mieux que de concrétiser une vision.
En
Et
effet.
ça, je pense que ça aussi, c'est ce qui participe à entretenir la flamme. Et en parallèle avec l'automobile, c'est ce qui met un peu de l'essence dans le moteur.
Bien sûr, tu as clairement raison. Tu as clairement raison. Et en fait, cette idée là de mindset, est-ce que c'est une idée que tu as tout simplement eue donc via une opportunité, une personne, etc. Ou est-ce que c'est vraiment, ou c'est vraiment en fait, est-ce que c'est une idée entrepreneuriale ou est-ce que ça va être plutôt une idée où tu t'es dit qu'il y avait possiblement un marché dessus et t'y intéresser, mais sans forcément une grosse passion pour l'automobile?
Non, 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 c'est en fait, si tu veux, c'est né de l'expérience, si tu veux.
D'accord, ok.
Quand tu passes du temps dans le secteur de l'automobile, mais ça, c'est valable dans n'importe quel autre secteur d'ailleurs,
Bien
quand
sûr.
tu côtoies longtemps un secteur, tu vois ses qualités, tu vois ses problèmes et tu vois les problèmes que rencontrent les clients.
Bien sûr.
De là, après, derrière, ben, quand tu te dis factuellement, hein, bon, bah là, du coup, je vais monter ma boîte. qu'est-ce que je fais dans ma boîte. C'est là où il faut que tu prennes des, c'est là où il faut que tu prennes des décisions.
Bien sûr.
Et du coup, quand tu dis ce qui a été mon cas, quand j'ai pris la décision de démonter ma boîte, et quand on l'a immatriculée, une fois qu'elle a été immatriculée, on s'est dit, bon, bah, super, la boîte, elle est immatriculée. Super, on a trouvé le nom. Maintenant, maintenant, qu'est-ce que fait cette boîte? Bien que sûr. Fait cette boîte, tu vois? Et en fait, si tu veux, au moment où tu dis, bah, ça y est, t'es immatriculé, en vrai, tu peux commencer à démarcher des clients, tu peux prospecter. Bah, tu te dis, bah, ces clients, qu'est-ce que je vais leur, qu'est-ce que je vais leur vendre? Et c'est là où, dans mon cas, je me suis, ça m'a permis de définir un peu ce qu'était mindset. J'en avais une approximation, mais au moment où justement je suis entré dans cette phase de définition, c'est là où je me suis dit, bah, alors attends, c'est quoi les problèmes que j'ai rencontrés dans le passé? Est-ce que j'ai les compétences techniques pour les résoudre? Est-ce que les technologies utilisées sont matures pour les résoudre?
Bien sûr.
Et t'as un espèce de pas de triptyque, mais en tout cas, t'as toutes les marches qui se mettent devant toi. Et quand t'as la chance que les planètes soient à peu près alignées, et ben, du coup, ça te permet de rapidement bien définir ton projet, de rapidement bien t'entourer avec les gens dont tu as besoin. Pas tout faire tout seul.
Bien sûr.
Et de créer ce dont tu avais pensé.
D'accord. Très bien. J'ai une question du coup. Est-ce que à tout hasard, tu as un monoproduit ou monoservice? Ou est-ce que tu as une panel, un panel de services que tu proposes?
Alors, l'entreprise, dans son stade à laquelle elle est aujourd'hui, elle a un monoproduit et un service. C'est-à-dire D'accord. qu'aujourd'hui, typiquement, on vend deux choses. On vend un produit qui est du coup notre solution de visualisation interactive des véhicules d'occasion.
D'accord,
ça, c'est le seul produit qu'on vend. Et après, on vend aussi un service qui est de la publicité digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, D'accord. un groupe automobile ou un constructeur qui veut avoir des leads pour les véhicules qu'il a en stock, du trafic, pour répondre à toutes ces problématiques, il est obligé du coup de faire de la publicité digitale pour parvenir à adresser le bon véhicule au bon prospect en face qui va être intéressé pour acheter ce véhicule-là. Et ça, c'est aujourd'hui les deux produits qu'on propose. L'entreprise, elle, elle travaille sur deux autres produits. Donc, en réalité, la finalité de l'entreprise,
D'accord.
c'est d'avoir du coup trois produits et un service.
D'accord, très bien. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu donc, le produit, on va dire le monoproduit, on a un petit peu compris, je pense, de quoi ça parlait. Est-ce que tu peux nous expliquer en détail tes services, on va dire, digitaux?
Ouais. Alors, ben on va partir d'un cas hyper concret.
D'accord.
Tu es un concessionnaire automobile, par exemple. Tu as en stock 10 Audi A1 ou n'importe quoi. 50 BMW série 2.
D'accord.
Il faut que tu les vendes vite parce que du coup tout véhicule que tu as en stock te coûte.
Bien sûr.
Évidemment. Et donc bah là du coup ce que une des solutions que tu as en face de toi c'est de contacter Mindset pour pouvoir justement facilement obtenir beaucoup de prospects qui vont D'accord. être intéressés pour acheter tes véhicules. Donc en réalité tu nous contactes pour obtenir justement des leads entrants, c'est-à-dire D'accord. des gens qui ont vu la publicité. Qui ont répondu à un formulaire pour dire ben, « moi, je suis intéressé par ce véhicule ». Et après, ben, du coup, les coordonnées de cette personne, elles vont être transmises du coup au vendeur par email. Et le vendeur du véhicule, lui, peut ensuite contacter l'internaute qui a vu la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google, peu importe, qui a donc complété le formulaire.
Bien sûr.
Il peut ben, appeler ben, « bonjour, monsieur Renard, j'ai vu que vous avez complété tel formulaire par rapport à la BMW série 2 ». Vous pouvez convenir d'un rendez-vous pour voir les véhicules qu'on a en stock. Et après, bah, du coup, chemin faisant, tu réalises ta vente et c'est comme ça que tu écrimes ton stock. Ça, c'est typiquement un cas pratique. Et on peut faire de la publicité sur toutes les plateformes aujourd'hui pour banaliser tout ce qui porte ads à la fin. On fait donc les
D'accord, Facebook, très bien.
TikTok ads, etc. Tout ce qui finit par ads, on a une solution, okay. une solution pour ça.
D'accord, très bien. Ouais, donc vous faites vraiment du SIA en fait, c'est ça que vous proposez.
Exactement, c'est, en réalité c'est SIA et SMA. Donc SIA c'est tout ce qui est mots-clés de recherche, donc Google, etc., Bing, etc. Et SMA ça va être tout ce qui est les réseaux sociaux, donc effectivement Facebook Ads, etc.
D'accord, ok, très bien. Concernant donc du coup ton produit, est-ce que tu as dû le breveter, étant donné que c'est une innovation quand même? Ou et donc si tu as réussi à le breveter, comment tu as fait face? Parce que c'est vrai que ça doit être quand même assez complexe, je présume.
Ouais. Alors effectivement, du coup, dans ce cas-là, on a effectivement notre produit qui est breveté. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand tu veux du coup faire breveter un produit, il faut que tu brevettes les lignes de code qui sont décisives pour ton produit. Donc ça, pour ça, honnêtement, on n'a pas réinventé la roue, on s'est fait accompagner.
D'accord.
On s'est accompagné pour identifier les points du produit qui donnaient nécessité à un brevet parce que c'était ce qui était absolument crucial dans le produit.
Bien sûr.
Et du coup, ben, on s'est fait accompagner d'experts dans le domaine. Et du coup, après, ça s'est très bien passé. C'est avec Inpi que ça se passe. Et puis, honnêtement, encore une fois, c'est un peu à chaque fois la même chose, mais quand tu es bien accompagné, tu peux du coup, toi, passer ton temps à donner les informations qui sont clés aux gens qui vont du coup pouvoir te faire qui vont pouvoir au mieux t'aiguiller en réalité. Et tu vas
D'accord.
pas passer de temps à chercher comment faire parce que justement le comment faire, en réalité, quand tu es chef d'entreprise, le comment faire, tu dois trouver comment faire pour vendre ton produit, tu dois trouver comment faire pour le développer. Mais après, il y a tous les aspects légaux. On n'est pas des juristes,
Bien
tu
sûr.
vois, pour donner une image. On n'est ni des juristes, ni des avocats, ni des comptables.
D'accord.
Et c'est pour ça que du coup, les entrepreneurs, ils sont souvent accompagnés de toute cette galaxie de toute cette galaxie de personnes.
Bien sûr. Bien sûr. Et donc d'ailleurs, c'est intéressant combien vous êtes actuellement chez Mindset.
Aujourd'hui, dans l'entreprise, on est cinq personnes qui travaillent là-dedans. Donc,
D'accord.
on est à notre niveau, c'est une petite équipe.
Bien sûr.
C'est une petite équipe, mais du coup, ce qui nous anime tous, c'est que on a tous la conviction que ce qu'on est en train de faire, c'est l'évolution de ce qui existe aujourd'hui, au sens que, pour te donner encore une fois un parallèle, à l'ère de la télé Full HD est arrivée la télé 4K.
Bien sûr.
Et bien, nous, si tu veux, on a la conviction que c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on est en train de proposer l'évolution de la façon de découvrir une voiture, en fait, une
D'accord.
voiture en ligne.
Bien sûr. Très bien. Et donc du coup, quels sont un petit peu, si tu peux nous donner une fourchette, on va dire, de salaire que tu te verses ou que tes employés ont, tout simplement, et en fonction de leurs tâches qu'ils font au quotidien.
Alors concernant les salaires, très sincèrement, les salaires, ça va varier de plusieurs choses. Un salaire, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, alors une personne, elle vaut un salaire, c'est absolument indéniable.
Bien sûr.
Mais il y a une autre chose en face, c'est combien l'entreprise elle est en capacité de payer, parce qu'il y a une seule réalité, c'est que l'argent, tu l'as pour pouvoir payer les salariés.
Bien sûr.
Donc, si tu veux, quand tu es dans une startup comme nous, tu as cette dualité-là. C'est-à-dire que tu mouilles le maillot pour créer quelque chose qui est absolument incroyable, qui n'a
D'accord.
pas de comparaison aujourd'hui sur le marché,
Bien
mais
sûr.
en même temps, tu es dans une configuration dans laquelle t'es pas encore leader de ton, t'es pas encore leader du leader de marché, t'as pas encore et 50% de part de marché pour te donner
Bien sûr, bien
un
sûr.
objectif. Donc du coup, si tu veux, les salaires chez nous, c'est des salaires qui sont tout à fait convenus, qui sont autour des 3 000 euros pour te donner
D'accord.
un chiffre, 3 000 euros net.
Oui.
Mais du coup, voilà, quand on sera plus grand, l'objectif, c'est que on est des hommes, on a construit ça, homme au sens avec un grand H, bien
Donc,
sûr.
moi, je suis bien sûr.
On est hommes et femmes à avoir construit ça, et du coup, tous ceux qui participent à ça, ben du coup, quand on aura du coup effectivement beaucoup de parts de marché, les
Bien sûr.
salaires vont augmenter parce qu'on part du principe que justement on veut être attractif, on a une
D'accord.
rémunération qui l'est aujourd'hui, mais on sait aujourd'hui aussi que bien vivre, ça passe aussi par un petit peu plus encore.
Bien sûr. En effet. Et je voulais savoir aussi combien vous avez de clients actuellement chez Mindset.
Alors, la clientèle chez Mindset, ça va de. On a des clients de tout, taille et de toute typologie.
D'accord.
Si je te donne un exemple, on va avoir des gens qui ont plusieurs dizaines de concessions, voire centaines de concessions, des grands groupes automobiles, qui sont soit clients chez Mindset, soit qui s'intéressent à notre technologie, parce que ben, faut pas oublier que dans notre milieu, il y a des notions d'engagement envers les prestataires.
Bien sûr.
Donc, pour te donner des exemples, on a deux groupes automobiles qui ont respectivement autour de 50 et 70 concessions qui veulent être clients de Mindset, mais ça va se faire par exemple que d'ici la fin de l'année parce qu'ils sont engagés avec leurs prestataires. Après, à côté de ça, on a aussi d'autres clients qui vont être du coup concessionnaires avec un ou deux points de vente.
D'accord.
Soit on va avoir des marchands VO, donc des gens qui n'ont pas un panneau de marque, mais qui vont soit être des mandataires, soit un marchand classique.
D'accord.
Et là, du coup, ben, c'est pareil, on n'est pas sur un volume, mais ces clients-là sont aussi importants parce que ce qui est inscrit dans l'ADN de Mindset, c'est que on veut que ce qu'on fait soit utilisé par le plus grand nombre et que ce soit pas non plus quelque chose d'élitiste que ce soit uniquement à destination d'une typologie particulière de clientèle.
Bien sûr.
Donc notre solution, factuellement, elle marche pour tout le monde.
Bien sûr, votre cible, elle est large quand même.
Ouais, exactement. Et même elle est d'autant plus large que effectivement on l'a beaucoup marketé le monde de l'automobile. Mais elle marche de la même façon pour le monde de la moto, le monde du scooter, le monde du vélo. En réalité, si tu veux que tu utilises notre application pour scanner une Aston Martin, une Clio, une Vespa ou un Evoque, pour te donner plein de tailles de véhicules, ça marche de la même manière.
Bien sûr. Et donc du coup, vous faites quand même des offres, on va dire, sur mesure en fonction de la taille de chaque entreprise, j'imagine, ou en fonction de chaque voiture scannée?
Alors, on a différents forfaits, effectivement. On a des forfaits qui sont tout compris, où là, dans ce cas-là, ben, le client, il sait qu'il a, comme sur son téléphone, un forfait qui lui permet de répondre à l'ensemble de ses besoins.
D'accord.
Et on a aussi des options, bien sûr, que tu peux ajouter dans tes forfaits. Et pour d'autres clients qui ne souhaitent pas justement avoir un forfait, là, on travaille du coup effectivement au véhicule scanné et la facturation, dans ce cas-là, est modulée chaque mois en fonction du nombre de véhicules qui a été scanné.
D'accord.
Véhicules, je dis véhicules volontairement parce que du coup, ça peut être des voitures, des motos, voilà, ça peut être n'importe quoi.
D'accord, très bien. Et je crois que ça n'a pas été évoqué. À tout hasard, Mindset, en fait, quelle est la date de création de Mindset? Elle a combien de temps, en fait, déjà sur le marché automobile?
La boîte, elle est immatriculée depuis le 28 novembre 2023.
D'accord.
L'entreprise, elle est récente. L'entreprise, elle est très récente. Donc on est d'autant plus stimulé et d'autant plus excité, pour vraiment employer tous les termes. c'est qu'avec si peu de temps, on est déjà réussi à proposer un produit qui marche.
D'accord.
Le produit, il a une roadmap, hein, bien sûr, c'est évident, avec différentes itérations et des fonctionnalités qui vont arriver. Mais en peu de temps, on a réussi à avoir du coup notre produit. Et en peu de temps aussi, on est arrivé à avoir notre clientèle, en tout cas notre premier client.
Bien sûr.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous. Et basé justement cette croissance qu'on est en train de vivre,
bien sûr,
on se dit que du coup il y a plein de choses à faire.
Ok, très bien. Et donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te défie au sein de Mindset dans ton activité entrepreneuriale?
Alors écoute, moi ce qui me défie le plus, c'est que on a pensé Mindset avec certaines itérations fonctionnelles, donc une roadmap produit. Moi je sais quel est le bout du produit, ou en tout cas à aujourd'hui je sais quel est le bout du produit.
Bien sûr.
Et donc du coup en fait il y a deux choses qui m'animent le plus, c'est faire découvrir le produit.
D'accord.
Parce que du coup on se nourrit littéralement des feedbacks qu'on a, que ce soit des feedbacks de clients ou que ce soit des feedbacks de prospects.
Bien sûr.
Ou même que ce soit de feedbacks de gens qui sont qui ont dit non, la solution on n'en a pas envie pour le moment parce qu'on est engagé, etc. Mais elle est top, etc. Peu importe.
D'accord.
Donc, si tu veux, on se nourrit de l'ensemble de ces retours. Et la deuxième chose qui me motive incroyablement, c'est que la suite des produits moi, quand j'y pense et quand on les développe et qu'on voit des premiers bêta-tests pour les nouvelles fonctionnalités,
bien sûr.
On se dit, mais c'est incroyable, quand on va montrer ça aux gens, ils vont être comme des fous.
Ouais, c'est sûr. En fait, concrétiser ce qu'on a imaginé en fait, dans notre tête et...
C'est ça.
Et faire en sorte qu'ils se réalisent, quoi.
C'est exactement ça. Pour moi, je vais te dire, c'est un peu comme un sportif, tu vois, qui se voit ou champion de France ou gagner la Coupe du Monde ou peu importe.
Bien sûr.
Tu vois un peu cette excitation au moment où alors déjà, ce qui le motive pour l'atteindre et ensuite cette excitation quand il est en train de le gagner, tu vois.
Bien sûr.
Moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Mindset, on a de très grosses ambitions. On a envie de littéralement peser sur le marché et d'être incontournable, en tout cas dans l'évolution de produits qu'on propose.
D'accord.
Ça c'est ce qui nous motive. Pour le moment aujourd'hui, ben on est dans le fait de travailler pour réaliser cet élément-là. Et je te raconte pas l'excitation quand on aura effectivement atteint cet objectif.
C'est sûr, c'est sûr. Vous avez des objectifs à court, moyen, long terme ou pas chez Mindset?
Ouais. On a des objectifs, comme toute entreprise, on a des objectifs trimestriels, des objectifs annuels, des objectifs sur plus long terme où on va être du coup à 2-3 ans.
D'accord.
Et du coup, pour la faire très courte, on a envie d'avoir plusieurs centaines de points de vente clients de la solution. Sous 1 à 2 ans.
D'accord.
Donc, c'est très conséquent. Très, très, très conséquent. Mais, on s'en donne les moyens.
Bien sûr.
On est convaincu de notre technologie. Et surtout, vraiment, quand les gens l'utilisent, c'est un atout incroyable. C'est-à-dire que typiquement, quand tu es sur ton canapé, que tu veux acheter la nouvelle Porsche 911, et que, au lieu de te proposer des photos, on te propose du coup notre visionneuse interactive.
Bien sûr.
Visionneuse avec laquelle, du coup, tu peux soit manipuler le véhicule, regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, dans tous les sens comme tu veux. Ou bien tu peux aussi marcher virtuellement à côté de la voiture.
Incroyable.
Ça te donne une expérience client qui est incroyable.
Bien sûr.
Et quand tu arrives en concession, le vendeur te dit, ben voilà, vous avez pu découvrir la voiture. Oui, elle est top. Maintenant, comment on fait le financement, etc. Le vendeur, il gagne du temps.
Bien sûr.
Il gagne du temps de façon indéniable. Et le client, lui, il se rappelle de cette expérience parce qu'il dit ça, j'ai jamais vu nulle part.
D'accord. Oui, bien sûr. Il y a un argument de vente et il y a en fait une service proposée au client qui est bien, bien plus supérieur au concurrent, on va dire, tout simplement. Donc, c'est vraiment une plus-value ajoutée pour l'entreprise.
C'est ça, okay. Exactement ça.
Et du coup, est-ce que ça a été voulu de s'implanter en France et pourquoi tout simplement ? Est-ce que ça aurait pas été mieux de s'implanter peut-être ailleurs, dans un endroit où par exemple la fiscalité a été moindre ou...
c'est une bonne question. Alors écoute, le choix de la France, très sincèrement, alors il s'est fait tout naturellement. Il s'est fait tout naturellement pour une chose, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que moi je suis français, que l'ensemble de l'équipe on est tous français.
D'accord.
Donc du coup, on n'avait pas de raison, mis à part effectivement la fiscalité que tu as évoquée. Maintenant la fiscalité, ben du coup, pour une entreprise comme la nôtre, c'est quelque chose qui est encore relativement léger.
D'accord.
Sauf au niveau du bulletin de paie. Mais ça c'est un autre point de détail. Mais en tout cas, faut quand même se rappeler aussi une chose, c'est que les charges que l'entreprise paie et que le salarié aussi paye, hein,
bien sûr.
La différence entre son salaire net, son salaire brut, il y a un sacré écart. Mais toutes ces charges-là permettent aux salariés de bénéficier de la retraite, du chômage s'il y a un problème. Il y a un tas de... Il faut quand même pas renier le fait qu'il y a une protection sociale en France qui fait qu'on est quand même relativement à l'abri si on a un problème de carrière, un
Bien sûr.
licenciement, des choses comme ça.
Bien sûr.
Dans toute proportion gardée, effectivement, il y a d'autres pays dans lesquels cette problématique-là, on s'en a franchi un petit peu. Ça a beaucoup d'avantages pour les sociétés.
Bien sûr.
Mais écoute, ouais. Je te dirais que quand on fera des milliards de chiffres d'affaires, peut-être qu'on pensera à autre chose parce que les autres font ça et ça doit avoir des impacts très importants.
Bien sûr.
Nous, pour nous, pour le moment, c'est quelque chose avec lequel on vit bien et avec lequel on vit aussi bien philosophiquement parlant pour le moment.
D'accord.
Demain, peut-être que ça changera, mais pour le moment, voilà, on est aligné avec ça.
D'accord, très bien. Et tu me disais que vous étiez 5, du coup, est-ce que vous avez des bureaux ou est-ce que, par exemple, vous privilégiez le télétravail ou des horaires aménagés?
On est en télétravail.
D'accord.
On est tous en télétravail pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas tous localisés au même endroit.
D'accord.
On s'est tous réunis autour du projet parce qu'on y croyait, mais on n'est pas réunis malheureusement par la géographie. On est tous
D'accord.
à des endroits différents. Mettre tous les gens dans un même endroit, c'est un formidable atout.
Bien sûr.
C'est un formidable atout parce que ça simplifie beaucoup la collaboration.
Bien sûr.
En télétravail, ça donne beaucoup de flexibilité à tout le monde parce que
Aussi.
du coup, ben, chacun fait son travail selon son rythme.
Bien sûr.
C'est-à-dire, pour tout te dire, on travaille tous beaucoup. Mais du coup, on a tous la possibilité ben, d'aménager des horaires, des choses comme ça,
Bien sûr.
qui font que ça donne beaucoup de flexibilité. Et les gens qui travaillent avec nous sont contents de ça, justement, parce qu'ils ont un confort de vie qui est quand même beaucoup plus intéressant que effectivement des fois la contrainte du bureau. Pour le moment, à 5, on le gère comme
Oui,
ça.
bien sûr.
Ça peut amener à changer quand on sera plus nombreux parce qu'on sait que aussi une grande croissance implique aussi beaucoup plus de
Bien
monde.
sûr.
Et quand on aura une équipe plus grande, on prendra peut-être certainement des bureaux afin de tous se mettre au même endroit. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, on est tous 100% en télétravail. Alors, quand je dis télétravail, hein, et l'équipe dirigeante, elle est dans des bureaux, c'est les autres qui sont en télétravail.
Bien sûr.
Mais voilà, pour le moment, on est extrêmement flexible.
D'accord, très bien. Et donc du coup, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que ça, on va dire, est-ce que ça vous a permis d'augmenter cette croissance, ou est-ce que ça vous a peut-être amené de la concurrence? Dis-moi un petit peu si c'est un atout, cette arrivée de l'IA, ou si c'est plutôt un désavantage pour vous.
Alors, l'IA, pour nous, c'est ce qui fait que Mindset existe.
D'accord.
Ouais. Très, très simplement, toutes les technologies qu'on utilise sont à la base d'intelligence artificielle. Et même le nom Mindset, c'est un jeu de mots par rapport à l'intelligence artificielle parce que Mindset, si tu enlèves le A, puisque normalement en anglais, c'est Mindset. Ça veut dire donc état d'esprit. Nous,
Bien
on a
sûr.
mis un A devant le I, qu'on conserve hein, la sonorité mindset, mais qu'on ait le AI pour artificial intelligence,
D'accord.
intelligence artificielle. Donc vraiment, dans l'ADN de mindset, il y a l'intelligence artificielle et tous les produits qu'on a aujourd'hui et les produits qu'on développe dans le futur sont tous à base d'intelligence artificielle parce que pour nous, ça nous permet de faire tellement plus que ce qu'on pouvait faire, ne serait-ce qu'il y a 3 ans, c'était pas du tout la même chose.
Bien sûr. Bien sûr. Et du coup, est-ce que à tout hasard, tu peux nous partager, donc bon, c'est vrai que l'entreprise est assez récente, est-ce que tu peux quand même nous partager une expérience qui t'a marqué depuis la création de l'entreprise?
Ouais, j'en ai une qui me vient en tête. C'est si tu veux, ben on fait des réunions hein,
D'accord.
pour présenter notre produit
Bien sûr.
à des prospects. au départ, puisqu'un client est d'abord un prospect.
D'accord.
Et du coup, je me suis retrouvé face à une personne qui était distributeur de véhicules.
D'accord.
Et au moment où je lui donc expliquais le produit, elle me dit OK, super, très bien. Et là, je lui montre du coup le produit. J'étais physiquement dans leur bureau.
D'accord.
Je tourne mon ordinateur et je me mets avec l'écran tactile de mon ordinateur à faire bouger la voiture un peu dans tous les sens, à marcher devant, derrière. Et là, la personne, elle m'a regardé, elle m'a fait ah ouais, quand même.
Ok.
Et ça, c'était. Je pense que de l'entreprise, de la boîte, même si on n'a pas beaucoup encore de... On est jeune, hein, la boîte, elle est jeune.
Bien sûr.
Mais je pense que ça, c'est un fait marquant, parce que ça montre à quel point, du coup, on est dans une rupture douce.
Bien sûr.
C'est-à-dire, c'est à la fois une évolution, mais une rupture aussi par rapport à ce que les concessions automobiles ou les vendeurs automobiles ont l'habitude de voir.
Non, c'est sûr. C'est sûr. Et donc, du coup, comment t'arrives, on va dire, on va repartir un petit peu sur la planification, etc. Comment t'arrives à répartir ton temps entre ton activité entrepreneuriale, tes activités personnelles? Est-ce que tu peux, par exemple, c'est vrai que j'ai pas mal d'auditeurs qui sont étudiants, qui ont potentiellement envie de répartir du coup leur temps entre les études et potentiellement créer une activité entrepreneuriale ou en tout cas une activité à côté. Comment toi tu répartis ton temps de manière concrète?
Alors, je pense que le point là ici, c'est de savoir ce qu'on veut et du coup savoir bien gérer ses priorités.
D'accord.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais ce que tu veux et que tu es capable de dire ben ça mérite que j'y passe du temps maintenant et ça au contraire c'est futile ou c'est pas important, ben je le ferai plus tard.
D'accord.
Ça déjà ça te permet je pense de bien balayer tes journées. Après pour une activité entrepreneuriale, je pense que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'efforts pour au départ on n'est pas sur LinkedIn à dire en un mois je fais 400 millions d'euros.
C'est... Non, c'est sûr.
Au départ, tu fais tout ça pour rien.
Bien sûr.
Au départ, tu fais tout ça pour rien. Et donc, alors, pour mon expérience à moi, du coup, moi en fait, je tiens un dashboard avec plein de dossiers. Si je l'illustre, c'est un peu une mind map pour vraiment aller dans le truc du détail complet. C'est
okay.
J'ai une espèce de carte mentale.
D'accord.
Où je consigne à l'intérieur de cette carte tout ce que je dois faire, mais dans tous les pendants de ma vie professionnelle.
D'accord.
Donc tout est classifié en fonction de groupe, donc de centre, soit de centre de profit, soit de centre de développement. Enfin voilà, dans plein de choses.
Bien sûr.
Et après, ben là, du coup, je répartis entre le temps que j'ai de disponible.
Bien sûr.
Parce que ben, des fois, il est 11h du matin et tu sais que jusqu'à... Alors, quand je dis 11h du matin, je dis que tu as déjà passé ta matinée, hein, bien sûr. Bien mais sûr, il te reste, par exemple, une heure de boulot. Ben là, tu ne vas pas t'embarquer dans une tâche qui te prend 3 heures.
Bien sûr, bien sûr.
Tu vas t'embarquer dans une tâche qui te prend ce temps-là. Je passe beaucoup de temps à bosser. Mais ça, j'ai de la chance. Parce que du coup, ma femme qui est aussi dans l'entreprise, ben, on est tous les deux dans le même mindset. Donc ça aide déjà
bien en sûr. Un,
te donner une situation tout à fait personnelle, de ne pas avoir le conflit du type l'un ou l'autre du couple passe beaucoup de temps à travailler alors que l'autre est dans une activité salariée et du coup, ce n'est pas le même rythme de travail.
Bien sûr.
Donc on travaille beaucoup tous les deux. Ça, il faut le dire aussi. Mais bien. En même temps... tu peux pas, je parle pas de changer de monde, mais pour l'image, tu peux pas changer le monde en faisant 35 heures, malheureusement.
Bien sûr.
Pas ou peu possible. Ou en tout cas, moi, j'ai pas trouvé cette recette-là, en tout cas. mais pour prendre un exemple extrême dans l'opposé, Elon Musk, il travaille sur des rythmes
qui sont impressionnants.
Seul lui peut supporter.
Ouais, je pense aussi. Ouais.
Mais force est de constater quand même
que ça fonctionne.
qui fait des choses assez épatantes, sans parler de l'automobile, hein, même si je parle de Neuralink ou de SpaceX, il a fait des choses que personne n'avait eu l'idée de faire ou que beaucoup de gens trouvaient très con.
Bien sûr.
Faire poser une fusée, tout le monde trouvait ça super con, pour être honnête. Et lui, il en a eu l'idée, il en a eu la vision, il l'a fait. Alors, je ne dis pas qu'il l'a fait tout seul, mais en tout cas, voilà, pour citer lui ou Carlos Tavares ou plein d'autres patrons pour se recentrer sur le monde de l'automobile.
Bien sûr.
Plein d'autres patrons dans le monde de l'automobile, de grandes sociétés travaillent dans le même temps et même dans des entreprises de plus petite taille. En règle générale, l'équipe dirigeante, ce sont des gens qui travaillent beaucoup.
Bien sûr. Et donc, du coup, toi, tu conseilles vraiment de faire une mind map. Tu utilises quoi comme logiciel? Parce que moi, je fais à peu près la même chose que toi là-dessus, mais je le fais sur Notion.
Ouais, tu peux le faire sur Notion, sur Loop. Alors, nous, on utilise les outils de Microsoft. Donc, on utilise Loop, par exemple, d'accord, qui est concurrent direct de Notion.
D'accord.
Et là, bah, du coup, tu crées, du coup... d'abord tu fais tes catégories, tu listes toutes tes tâches ou tu fais tes catégories, ça dépend de ta façon de penser.
Bien sûr.
Tu remplis tout là-dedans et surtout le point essentiel, c'est de regarder ta mind map tous les jours.
Oui, c'est ça.
Parce que sinon, c'est super, t'as un endroit dans lequel t'as consigné tout ce que t'as à faire, mais tu le regardes jamais, donc il n'y a rien qui avance.
Ouais, c'est ça. Et aussi, surtout, même c'est bien de se faire une mind map, mais il faut toujours se fixer des objectifs, parce que sinon, si on ne sait pas où on va, même si on s'organise, on ne sait toujours pas où on va, donc on n'ira nulle part
aussi. C'est ça, exactement. Exactement.
Okay.
Mais en tout cas, pour la question liée aux étudiants, du coup... Je pense que c'est bien d'avoir envie d'entreprendre parce que quand tu entreprends, tu suis un peu ton rêve à toi.
Bien sûr.
Mais il y a quand même un point qui est important, c'est que l'expérience que tu vas pouvoir acquérir d'autres personnes qui sont autour de toi, si tu as la chance de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir te prendre un peu sous son aile, ça va te faire gagner... beaucoup de temps et où ça va te donner de l'assurance pour entreprendre ce dont tu as envie. Donc,
bien sûr.
J'avais vu, tu sais, je pense que tout le monde a sur son fil LinkedIn ou sur son fil de réseaux sociaux des comptes de motivation, de mindset,
ouais, bien sûr.
Etc. Et moi, il y en a un post, il y a plusieurs posts que... Comme tout le monde, je screenshot parce que je trouve que c'est très bien dit, mais il y en avait un sur lequel j'étais tombé et qui dit que entre 20 et 30 ans, tu dois être mentoré et que après cette partie-là, c'est là où tu es logiquement prêt à voler tes propres ailes. Mm. C'est pas valable pour tout le monde, hein. Il y en a qui d'entrée de jeu sont prêts à voler de leurs propres ailes, mais des fois tu te nourris des autres et c'est bien aussi.
C'est vrai. C'est vrai. Et alors, petite question maintenant, on va dire, je pense qu'on peut passer au sujet vaste, tu vois, donc c'est-à-dire un petit peu, on peut faire une ou deux questions de débat. Je pensais que ça pouvait être intéressant, surtout avec toi, vu que tu es vraiment dans l'intelligence artificielle, de partir sur en fait, tout simplement l'évolution du secteur automobile, donc plus particulièrement, avec l'intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses du coup aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça va être plutôt un atout pour le secteur automobile ou est-ce que tu penses justement que ça va être, on veut dire, la destruction de ce secteur?
Non, moi je pense que ça va être un atout. Je pense que ça va être un atout pour une raison, c'est que c'est en premier un outil.
Bien sûr.
C'est ça le point essentiel, c'est que c'est en premier un outil dont tu peux te servir. Alors, communément de ChatGPT pour t'aider à faire plein de choses. Pour le vendeur automobile ou le responsable marketing automobile, je peux très bien servir de ChatGPT pour plein de sujets, des mails, il y a plein d'exemples qui vont faire que le vendeur automobile ou en tout cas les personnes qui travaillent dans le monde de l'automobile vont augmenter leur productivité. Oui. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est un outil. Et la deuxième chose, c'est que ça donne naissance à plein de services comme le nôtre, si tu veux. Le nôtre, le fait de pouvoir voir la voiture de façon interactive, comme si tu étais en face de la voiture, alors qu'en fait, tu es sur ton canapé avec ton iPad, et bien en fait, ça existe grâce au progrès de la technologie. Nous, typiquement, les choses qu'on a développées, on n'aurait pas pu les développer il y a 5 ans. Parce que l'infrastructure serveur n'était pas au rendez-vous, parce que certaines technologies n'étaient pas au rendez-vous. D'accord. Parce que nous aussi, on n'avait pas ces mêmes compétences.
Bien sûr.
Donc voilà, c'est, moi, je le vois comme une formidable opportunité.
D'accord.
Qui a comme toute technologie des travers.
Bien sûr.
Mais pour moi, le point essentiel, c'est comment faire pour que tous ces outils-là soient des outils d'aide à la vente pour le vendeur, pour que lui fasse plus de ventes, plus de contacts, etc. etc.
Bien sûr.
Et je crois profondément que notre produit, c'est vraiment un produit d'aide à la vente qui aide le vendeur pour qu'il fasse une vente en ligne ou hors ligne. C'est un avantage pour lui parce que quand il a quelqu'un qui vient et que son prospect lui dit, ben écoute, écoutez, parce que du coup, il se voit aller voir le client. Mais écoutez, faut que je montre la voiture à ma femme, etc. Ben lui, cette personne-là, il peut rentrer à la maison, montrer la voiture à sa femme, à son père, à son oncle, à sa tante, peu importe. Et tous peuvent voir la voiture de façon hyper interactive.
Bien sûr.
Le vendeur automobile, il va gagner du temps, il ne se tape pas de rendez-vous, des contre-visites, des choses comme ça. Et pour le cas de l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Je suis quasiment certain qu'il y a plein de boîtes qui vont émerger et qui vont créer des choses qui vont être vraiment des outils décisifs pour améliorer les performances qu'on a aujourd'hui.
D'accord, très bien. Mais par exemple, tu vois, on a affaire quand même à l'intégration de l'intelligence artificielle de plus en plus dans les voitures, surtout dans les interfaces, etc. Et c'est vrai que, par exemple, le phénomène de voiture autopilote, c'est... Je sais pas si j'aurais réellement confiance, tu vois.
Alors, sur ce point-là, sur le futur de l'automobile, j'imagine moi deux futurs, mais dans vraiment quelque chose d'hyper lointain.
D'accord.
En un, c'est que je vois pas la voiture fiable, etc. 100% autonome, la voiture que tu n'achètes pas, hein, grosso modo.
Bien sûr, bien sûr.
Un robot taxi, pour en citer certains. mais je ne vois pas le robot taxi arriver aujourd'hui et faire en sorte que tout le monde, du jour au lendemain, dise « je ne conduis plus, je paye 2 euros mon trajet » et puis voilà, grosso modo, c'est le train.
Bien sûr.
C'est ça, ni plus ni moins. J'y crois... peu ou en tout cas dans une vision très futuriste, parce qu'il y a un point, moi que je trouve important, c'est que dans la voiture, t'as le plaisir de conduire, tu vois.
Bien sûr.
Et ça, je pense que c'est littéralement ce qu'on te coupe quand tu mets la conduite automatique.
Bien sûr.
T'as plus rien, t'as plus de plaisir, t'as plus tout ça, quoi.
Oui, mais tu vois, ce qu'ils ont annoncé, par exemple, à Dubaï, c'est qu'en 2030, il y aura absolument plus de conducteurs de taxi. C'est-à-dire qu'il y aura uniquement des voitures autonomes.
Ouais. Alors...
Et 2030, c'est pas si loin que ça.
Tout ça, je pense qu'il y a effectivement des choses qui vont se réaliser. De là à dire que tous ne conduiront plus, faut pas oublier que il y a 30 ou 40 ans, on disait que dans les années 2000, il y aurait des voitures volantes. On les a pas encore eues, ces voitures volantes. Mais par contre, pour revenir à une réalité qui existe, c'est vrai qu'aux États-Unis, tu peux effectivement te déplacer d'un point A à un point B sans action sur le volant, ça c'est vrai. T'as plein de sociétés qui développent des technologies autour de ça, c'est une réalité aussi. Donc ça fait partie d'un futur qui va arriver, qui je pense se réalisera. Et peut-être que dans le futur, on aura des voitures qu'on a envie de conduire Et ensuite, on aura des voitures dont on se servira peut-être pour le quotidien, parce que du coup, aller à un point B, bon, on n'a peut-être pas envie de conduire. Mais c'est vrai que la mobilité, elle, va être, un peu être repensée.
Du coup, selon toi, quelles sont les différentes tendances majeures et tout simplement les défis futurs auxquels sont confrontés le secteur automobile?
Alors, je pense qu'en tendance majeure ou en défi, là, pour tout de suite, je pense qu'il y a un point, c'est la transition électrique.
D'accord.
Parce que du coup, ça, à mon sens, a un impact à plusieurs niveaux. Le premier impact, c'est qu'il y a un parc roulant qu'il faut renouveler. Je pense que ça, c'est du coup quelque chose qui est compliqué à amorcer, d'autant plus que... pratico-pratique pour les vendeurs, ils sont face à des gens qui sont pour certains réfractaires au changement de technologie dans les véhicules. Le fait aussi de reprendre toute une vague de véhicules électriques, tout ce qui est LOA, etc., ben, ça aussi c'est un petit peu nouveau, l'air de rien, pour ce secteur. Et après, il y a toujours la même chose, c'est la digitalisation des process de vente. Parce que oui, aujourd'hui tu peux acheter une voiture 100% en ligne, c'est pas encore le mainstream.
Bien sûr.
Mais du coup, ce sont des choses qui font partie des défis qui sont à relever là, de façon dans très peu de temps. C'est vraiment le défi de ce soir slash demain. Hein, on n'est pas sur après-demain.
Bien sûr. D'accord, très bien. Et en fait, est-ce que actuellement, t'as vu tout simplement des tendances qui sont vraiment marquées dans l'automobile plus en profondeur ou pas du tout?
Alors, écoute, je vais faire, je vais te donner un écho, quelque chose qui m'a interpellé et qui est dans la lignée de cette transition électrique et qui est liée aussi au plaisir de conduite.
Bien sûr.
Si tu prends par exemple des véhicules sportifs,
oui, très bien.
Tu prends des véhicules sportifs d'il y a 10 ou 20 ans, le bruit qui était fait par la voiture faisait partie de l'expérience que tu avais de conduite au-delà des jets que tu prends quand tu enfonces l'accélérateur. et du coup... t'as des constructeurs qui se sont mis à l'électrique parce qu'ils y sont contraints, c'est une évidence. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis du coup dans les haut-parleurs de la voiture, au moment où tu accélères, un bruit de moteur, ou en tout cas un bruit d'accélération. C'est pas un bruit de moteur thermique, mais c'est un bruit d'accélération.
Bien sûr.
Pour ravoir ce feeling, ce sentiment que tu as perdu du passage de... du thermique à l'électrique, parce que dans l'électrique normalement t'as aucun bruit. Donc ça, si tu veux, ça c'est je sais pas si on peut vraiment parler de tendance, parce que c'est encore une fois pas mainstream, je l'ai vu que sur quelques constructeurs et sur certains modèles.
Bien sûr.
Mais par contre, je me dis que ça peut ouvrir la voie à quelque chose, à se réapproprier quelque chose auquel on était habitué, mais parvenir à le faire évoluer.
Bien sûr, de toute façon, retrouver un petit peu Louis, en fait, parce que c'est vrai qu'on l'a perdu ces derniers temps. Et alors oui, j'ai eu l'occasion de tester ce genre de choses via une Fiat 500 Abarth électrique, les dernières. Il y a cette option là mais en fait tu sens que c'est pas encore totalement au point, puisqu'en fait t'as une latence entre le fait où tu accélères et le bruit.
D'accord.
Tu vois. Et donc, du coup, c'est une belle amélioration, dans le sens où, quand même, quand on connaît les Abarth, de les premières phases de 2008 et les deuxièmes phases de 2018, 2019, c'est vrai que c'est des voitures qui font du bruit et qui sont vraiment réputées pour ça. Et malheureusement, on ne le retrouve pas forcément dans les toutes dernières.
Bien sûr.
En plus, je sais pas si t'as vu un petit peu la tarification d'une Abarth, mais c'est hallucinant, dans le sens où on peut avoir aujourd'hui, on peut se poser la question, chose qu'on pouvait pas se poser avant, est-ce que je prends une M2 de chez BMW ou est-ce que je prends une Fiat 500 Abarth électrique? Et du coup, je sais pas, selon moi, il n'y a pas de question au final, mais bon, voilà.
Non, mais c'est intéressant parce que je pense que dans toute transition, parce que là, on est en transition, que ce soit une transition technologique ou dans n'importe quoi, t'as des essais, t'as envie d'aller récupérer des choses qui te rapprochent un peu de ce quelque chose qui te rassure. Le bruit, par exemple, ça fait partie, c'est partie de l'expérience, mais t'as pas la vibration de conduite.
Bien sûr.
T'as le moteur qui vrombit, c'est la voiture, enfin voilà, c'est une ambiance sonore mais sensorielle un peu dans tous les sens. Donc voilà, je pense que le point à retenir pour moi, c'est que c'est une évolution et que dans cette évolution, ben, tu as des choses qui vont être tentées, qui vont marcher, ça va être incroyable, d'autres qui vont avoir une bonne intention, mais ça ne va pas marcher.
Bien sûr.
Et moi, c'est vraiment le point que je salue le plus dans tout ce genre de transition, c'est qu'il faut tenter quelque chose, tu vois.
Bien sûr. Si on ne tente pas, dans tous les cas, on n'arrivera à aucun résultat, donc autant se lancer.
C'est sûr. Ça.
C'est sûr. Et donc, est-ce que à tout hasard, tu as des personnes, des livres, des ressources tout simplement qui t'ont inspiré pour entreprendre ou pas du tout?
Ouais, t'as la chance en fait de pouvoir aller dans n'importe quelle chaîne de magasins et de trouver plein de livres qui sont super intéressants. Pour le citer, t'as Lean Startup qui est un super bouquin.
D'accord.
Qui va vraiment te donner une ouverture d'esprit sur soit tu es déjà ou pas accoutumé avec l'univers de la gestion de projet, de la conduite d'entreprise, etc. Mais lui, en tout cas, il t'illustre beaucoup de choses. Et si tu es débutant, j'ai bien conseillé si t'es débutant, parce que du coup, ça te fait vraiment une bonne introduction dans ce genre de choses.
D'accord, très bien.
Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Ce livre, il est vraiment très intéressant pour ça. Après, tu as la méthode GTD. D'accord. Là, on est vraiment, c'est même plus dans le monde de l'entreprise, c'est dans le monde de la gestion de tes tâches, donc que tu peux appliquer à n'importe quoi.
Très bien.
Et donc, le livre s'appelle la méthode GTD.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui t'aide justement à prioriser tes tâches. Et globalement, la philosophie, c'est faire en sorte que toutes les tâches soient faites.
Oui.
Et donc, ça, je pense que ça peut aider aussi des gens de lire ce livre.
D'accord.
Parce qu'il est franchement très intéressant aussi. Et tu as vraiment des déclinaisons de ce bouquin en version soit ultra théorique ou soit en pratico-pratique. Donc, pareil, quelqu'un qui a envie de faire une introduction à ça, c'est très intéressant. Et c'est pas en mode je réinvente la roue et je te donne la vérité. c'est tout un tas d'astuces qui, si tu les appliques, te rendent plus productif, mais dans son entièreté, c'est-à-dire
bien sûr,
pas uniquement professionnel, mais dans n'importe quel segment de ta vie.
D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a des objectifs dans ta carrière professionnelle qui te tiennent à cœur d'atteindre ou pas du tout? Ou tu les as déjà atteints pour toi?
Oh non, j'ai pas encore atteint loin de là les objectifs. Si tu veux, moi, j'aspire à faire de Mindset un groupe, c'est-à-dire une grande entreprise diversifiée avec plein de secteurs d'activité. Le premier qu'on adresse, c'est le monde de l'automobile, mais ce que je veux par-dessus tout, professionnellement parlant, c'est avoir la chance dans ma vie de conduire une entreprise qui grandisse et qui devienne d'une taille importante.
Bien sûr.
Ça, ce serait si on travaille tous les jours pour ça, mais ce serait effectivement l'ambition première. Ce serait effectivement ça, ouais. Si tu devais coucher sur du papier quel est ton rêve professionnel, ce serait ça.
D'accord, très bien. Et moi j'avais une question aussi concernant en fait tout simplement l'investissement de la startup. Est-ce que tu as dû faire appel à une levée de fonds ou pas du tout pour
Alors,
lancer ton projet?
c'est un point, oui, effectivement, intéressant à soulever. On est aujourd'hui dans un point où on a la chance d'avoir des capitaux propres. Donc ça, c'est ce qui nous a permis au début d'éviter de faire une levée de fonds d'entrée de jeu, ce qui nous permet justement d'avoir notre produit conçu avec des capitaux propres.
D'accord.
On a fait des emprunts, on a fait des prêts d'honneur, des aides, etc. On a récolté beaucoup d'argent sans avoir besoin d'aller chercher de la levée de fonds. Parce qu'il faut savoir qu'en France, j'ai pas l'expérience d'autres pays, mais en tout cas, de ma fenêtre, on a pu bénéficier de beaucoup de dispositifs qui nous ont permis d'avoir beaucoup d'argent d'entrée de jeu pour créer nos produits.
D'accord, très bien.
Ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est d'avoir des clients rapidement.
Bien sûr.
Dès le lancement de la boîte, ça aussi c'est un point important. Et ça nous permet aujourd'hui de ne pas avoir eu besoin de faire de levée de fonds. On y pense, c'est pas quelque chose qu'on écarte totalement, mais on vit pas le fait de se dire l'objectif est de faire une levée de fonds. On vit plutôt, pardon, dans la philosophie de se dire, on a ça comme objectif, comment on l'atteint? Et
Bien sûr.
si la levée de fonds permet de l'atteindre, on en fera. Si notre trajectoire de croissance nous permet de ne pas en faire, on n'en fera pas parce que justement, on sera aussi très fier de s'être construit sans ça.
Bien sûr. D'accord, très
Donc,
bien.
voilà, encore une fois, la levée de fonds pour nous, c'est un outil. Voilà.
Parfait. Quel conseil tu donnerais pour... en fait, tout simplement, un jeune qui veut tout simplement se lancer dans le secteur de l'automobile, qui sait pas forcément où commencer, dans le sens où il doit avoir 18, 20 ans et il a surtout pas de contact. Comment il pourrait se créer un réseau? Comment il pourrait tout simplement prospecter des concessions pour soit proposer des services, soit ou sinon pour travailler et avoir une expérience dans ce secteur?
Alors écoute, moi je dirais que le point le plus important, c'est que il faut montrer ou démontrer sa motivation. Et même le point que je dirais le plus, c'est éprouver sa motivation, dans le sens où c'est pas parce que tu fais c'est pas parce que tu fais sans email ou sans publication ou message LinkedIn. Quand je dis message LinkedIn, c'est que tu envoies un message à quelqu'un sur
Bien
LinkedIn,
sûr,
c'est
bien
ça que je
sûr.
voulais dire. Pour moi, c'est pas ça vraiment éprouver sa motivation, c'est vraiment faire en sorte de contacter les personnes que tu penses pouvoir soit être en besoin,
D'accord.
dans le besoin d'une presta ou d'un service.
Très bien.
Et la régularité, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne, si vraiment tu penses qu'elle a besoin de toi, il faut arriver à lui montrer, c'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment demain, mais ce sera peut-être le moment après-demain. C'est voilà, la ténacité, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et aujourd'hui, moi, je le vois de ma petite fenêtre qui est, il n'y a rien de plus important que quelqu'un qui a envie. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui a envie, il va avoir la possibilité d'apprendre. Quelqu'un qui n'a pas envie et qui fait ça parce que il est là et qu'il a eu la chance de, sous peu importe la raison, accéder à un poste, s'il n'a pas envie, il va pas progresser
Bien sûr.
et il va rapidement se retrouver en fait dans une situation qui est que il n'a pas eu envie, il n'a pas appris, il n'a pas développé ses compétences, et ben il est toujours au même point que là où il était.
Oui, en effet, c'est vrai. Et
Donc
concrètement, comment tu conseillerais à un jeune pour se créer tout simplement un carnet d'adresses? Tout à l'heure, on parlait un petit peu des rencontres qu'on pouvait faire et en fait, tout simplement des rencontres qui t'ont forcément mené à entreprendre. Je pense que ce serait intéressant de connaître un petit peu comment toi, tu t'y es pris pour te créer ce réseau-là. Parce que c'est vrai que le secteur de l'automobile, c'est un secteur assez fermé où, dans lequel tout le monde se connaît. Et donc, en fait, tout simplement, il faudrait tout simplement qu'on arrive à donner à nos auditeurs, on va dire, quelques tips pour pouvoir rentrer dans ce secteur.
Tu peux, à mon sens, en fait, tu peux la démarche la plus à la portée de tout le monde sans avoir à faire 800 km par jour. La démarche la plus à la portée de tout le monde, pour moi, c'est de se construire un bon LinkedIn.
Oui, c'est vrai
C'est-à-dire
ça.
qu'aujourd'hui, tu vas assez facilement pouvoir entrer en contact avec plein de gens sur LinkedIn.
D'accord.
Quand je dis entrer en contact, c'est les demander en contact et après, soit leur envoyer un message pour échanger la discussion, soit rebondir sur des commentaires pour justement commencer la discussion, soit créer des publications pour justement faire en sorte d'exposer tes idées, tes envies, tes travaux, tes motivations, peu importe, pour justement aussi susciter des réactions.
D'accord.
Et LinkedIn, c'est un formidable réseau slash générateur d'opportunités parce que tu as toujours un poste sur lequel tu peux réagir, la possibilité d'entrer en interaction avec des gens. Et après, chemin faisant, ça va aussi te permettre de faire des rencontres.
Bien sûr.
Un étudiant, je pense qu'il a dans son école, il y a assez souvent maintenant des startup labs ou des choses comme ça. Ça devient assez courant dans les écoles.
C'est vrai.
Donc ça permet aussi de rencontrer des gens. Et il est possible que tu aies des parrains dans ces startup labs qui peuvent être liés au monde de l'automobile.
Bien sûr.
Et ça c'est important et ça permet, je pense, c'est la façon, à mon avis, qui est la plus simple et la plus à portée de tous. Donc, pour être hyper clair, demande dans LinkedIn la terre entière de l'automobile.
C'est ça, exactement. Exactement. Je pense que aussi c'est intéressant le fait de participer à des événements le plus possible. C'est vrai que généralement il y en a à Paris, il y en a sur Monaco avec le Top Marque, il y en a dans tous les pays frontaliers dans tous les cas. Donc c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de rencontrer directement les professionnels. Finalement, c'est des professionnels qui sont sur ce type de salon, ils aiment bien discuter. Donc,
Bien
et
sûr.
c'est des passionnés avant tout. Donc,
Bien
généralement,
sûr.
ils vous accueilleront, je pense, à bras ouverts.
Bien sûr.
Petite dernière question. Je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus. Est-ce que tu aurais un top 5 automobile?
Là, tu me mets une belle colle là. Alors, écoute. Je vais te donner le top 5, le top 5 de quand j'étais ado
D'accord.
et quand j'allais passer mon permis. Si tu veux, quand t'es ado et que tu vas passer ton permis, enfin quand t'es ado, ouais, plus qu'ado même, mais en tout cas quand c'est le moment de passer ton permis, c'est là où tu dis, ça y est, je vais pouvoir conduire, donc je vais conduire quoi? Et à ce moment-là, je bavais devant, plus particulièrement deux voitures.
D'accord.
Je bavais devant la Clio RS.
OK.
Elle me faisait baver cette voiture. Et je bavais à l'époque devant la 206 16S. C'était pareil, c'était la 206 version sport.
Mal équivalent.
Et du coup, j'ai toujours été très friand de véhicules de type ouais, des citadines sportives ou bien de la berline sportive.
D'accord, très
Donc
bien.
ouais, ça c'est je te raconte pas le nombre de soirs où j'en ai rêvé de ces voitures avant pas trop
Et aujourd'hui, du coup, dis-moi un petit peu qu'est-ce qui te un top
alors
2
écoute
des plus belles voitures que tu aimerais conduire.
aujourd'hui Il y a des voitures qui sont, il y a des voitures qui sont incroyables, comme la Renault 5. Elle, pour moi, c'est une renaissance, c'est une renaissance incroyable. Franchement, j'ai vraiment hâte de pouvoir la conduire, cette voiture, parce que je la trouve faire une belle réunion du passé et du futur.
Bien sûr. Tu l'as
Il y
déjà
a
vu ou pas?
Non, je l'ai pas encore vu de mes yeux. Comme tout le monde,
D'accord.
je l'ai vu sur Internet, mais je l'ai pas encore vu et je suis pas encore rentré dedans.
C'est vrai que les finitions
À
sont
toi.
belles. J'ai eu
Ouais.
l'opportunité de l'avoir au Salon de Genève.
Ah, excellent.
Et franchement, c'est vrai qu'ils ont fait. Ils ont bien re respecté l'ancienne, en fait, l'original. Donc,
Ouais.
franchement, non, non, c'est une belle. C'est une belle R5 2.0, on va dire.
Ouais, c'est ça, exactement. Après, du coup, il y a la Porsche Taycan,
Ouais.
qui est magnifique. C'est vraiment une super voiture. T'as la BMW i4, que
OK.
je trouve aussi adaptée à tous les jours, mais en même temps, c'est un beau plaisir.
D'accord, OK, très bien. Mais donc du coup, pas du tout de thermique.
Non. Les thermiques, je suis moins effectivement, je suis passé maintenant philosophiquement électrique. Alors attends, tu me demandes un top 5, hein. Là,
C'est vrai.
je te donne un
C'est
top
vrai, c'est
5.
vrai, c'est vrai.
Mais dans la réalité, je conduis ma voiture perso aujourd'hui, c'est une 308 GT Line. Donc
D'accord.
ça reste un beau véhicule, hein. Ça reste un beau véhicule.
Bien sûr.
Mais si tu me demandes top 5, je compléterai. Allez, pour en mettre une de thermique, parce que je ne sais pas si un jour ils en feront une électrique, mais du coup, les Bugatti, parce que eux, je
D'accord.
serais très curieux de voir comment est-ce qu'ils vont faire une électrique. Je ne sais pas s'ils vont en faire une un jour,
Mais ils se sont
mais ce
associés
serait
avec
intéressant.
Rimac.
Ils vont sortir un truc électrique?
Alors non, en fait, Rimac, le groupe Rimac, tu connais ou pas du tout?
Non, ça me parle pas, ça.
D'accord, mais en fait, c'est clairement, en fait, je pense, si je ne m'abuse, c'est la voiture électrique la plus puissante qui existe sur le marché, qui a été
OK.
sortie. Et en fait, ils ont racheté Bugatti. Donc maintenant,
OK.
Rimac détient 55% des parts et Porsche 45% des parts de Bugatti. Donc, ils sont
D'accord.
actionnaires majoritaires. Et donc, en fait, Bugatti, ils vont quand même conserver pour l'instant le thermique. Mais apparemment, ils vont faire un nouveau moteur. Ils sont sur le développement d'un
Ok.
nouveau moteur. Ça a été annoncé là récemment. Ils vont faire un V16.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Donc, on est passé du W16 au W12. Et maintenant, ils font un V16. Et donc, apparemment, ça promet d'être sympa. Ça
Ouais,
promet d'être sympa.
ça va être intéressant à ça, mais pareil pour les la suite pour tous ces constructeurs là de véhicules d'exception. Si je prends les Ferrari, le SUV Ferrari, ou même si je prends par exemple les Tesla Model S par exemple, tout ça, je me pose quand même une question qui sont clairement dans mon top 5, hein. Donc là, tu l'as complété.
Bien sûr.
Mais du coup, je me pose une question, c'est que oui, aujourd'hui, effectivement, j'ai déjà eu des véhicules électriques, donc c'est très facile pour moi d'envisager l'achat d'un véhicule électrique. Donc je me dis, ben, c'est une évolution logique, l'agrément de conduite, il y est, c'est très sympa.
Bien sûr.
Je suis curieux de voir, par contre, si les carburants de synthèse vont émerger et donc coller aux problématiques environnementales. Est-ce que ça va faire changer le marché ou pas? Auquel cas, ça fera peut-être changer mon top 5.
C'est vrai. Bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce qui va advenir de l'hydrogène? Parce qu'il y a aussi plein de projets qui sont liés à l'hydrogène. Donc,
Bien sûr.
pareil, si on refait la discussion dans 5 ans, je suis sûr qu'on aura un début de réponse à ces questions.
C'est vrai, tu as bien raison. Tu as bien raison. Donc, merci beaucoup, Julien, d'avoir participé au podcast de The Automotive Vision.
Avec plaisir, merci pour l'invitation. C'était super sympa de discuter avec toi et d'échanger sur tous ces sujets.
Bah, merci beaucoup. Et puis écoutez, bah, vous pouvez tout simplement suivre Mindset directement avec tous les réseaux sociaux, le site internet directement dans la description. Vous avez également la description, bien évidemment, du contenu du podcast. Donc comme ça, s'il y a un chapitre qui vous a vraiment intéressé, vous pouvez le retrouver directement. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et je te dis à très vite. Ciao.